Bon matin, chers amis, et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, vous le saviez certainement, qui vous accueille, comme je le fais d'ailleurs à chaque matin. Je vous rappelle que l'émission revient quotidiennement sur les ondes de CFOI, du lundi au jeudi à 8h et en rediffusion à 14h l'après-midi. Et le vendredi, c'est la diffusion de la prédication que j'apporte à l'Église réformée baptiste de la Trinité à Montréal. Donc ce matin, nous poursuivons notre étude, notre réflexion sur le livre de Daniel et nous attaquons, on va employer des gros mots, au chapitre 5. Nous lirons les versets 1 à 9. Donc Daniel, chapitre 5, versets 1 à 9 et ça va comme suit. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent, en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé et il changea de couleur. Et ses grands, bien sûr, ses conseillers, furent eux aussi tout à fait consternés par la situation. Alors voilà, nous nous retrouvons dans une autre situation un peu pathétique dans le royaume de Babylone. Le livre de Daniel, ce n'est pas seulement le récit de l'histoire du peuple de Dieu qui est là en exil. En fait, l'auteur ne démontre pas un très grand intérêt pour la chronologie historique du livre, mais il se concentre davantage sur le conflit spirituel qui accourt derrière l'histoire. Et ce conflit-là, il vient à la surface de manière, on l'aura noté, de manière dramatique, dans des événements particuliers, d'une importance cruciale pour le royaume de Dieu. Ce qui est en jeu dans l'exil, en fait, c'est la menace que pose le royaume du monde contre le royaume de Dieu. Et c'est cette perspective-là qui explique l'entrée en scène subite de Belshazzar. Il nous arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sans introduction, sans note biographique et sans explication quant à sa venue sur le trône de Babylone. Et lui aussi va servir d'illustration de la souveraineté de Dieu qui a la capacité de détrôner qui il veut, comme on l'a vu dans le cas de Nebuchadnezzar aussi. Ainsi, nous voyons Belshazzar apparaître sur la scène et s'éclipser, et tout cela en un seul chapitre. Selon les historiens, Belshazzar serait le fils aîné de Nabonidus, le dernier roi de Babylone. Nabonidus avait remplacé Marduk par Sin, qui était le dieu lunaire, comme divinité première au panthéon babylonien. Et son fils, Belshazzar, agissait comme régent, comme au deuxième, en fait, à côté de son père, Nabonidus. Et c'est la raison vraisemblable pour laquelle, au verset 7, 16 et 29, Belshazzar offre non pas la deuxième, mais la troisième place dans le royaume à quiconque pourrait interpréter l'écriture qui est apparue sur le mur, parce que c'est lui-même, voyez-vous, qui occupe la deuxième place. Nebuchadnezzar, par ailleurs, il est appelé « son père », mais il s'agit simplement d'une expression courante dans le monde ancien pour désigner tantôt un grand-père, tantôt un arrière-grand-père ou même un ancêtre. Alors, quel est donc l'objet, quel est le rôle de ce récit de Nebuchadnetsar? Quelle est sa contribution, en quelque sorte, à la révélation de la souveraineté de Dieu dans son rapport avec nous? Bon, il est évident que l'expérience de Belshazzar est très différente de celle de Nebuchadnetsar, avec qui Dieu fait montre d'une patience proverbiale. On se souviendra comment Dieu a fait montre de longanimité avec Nebuchadnetsar. Belshazzar, lui, il est rapidement retranché de la scène et son royaume lui est enlevé. Nous lisons au Proverbe 6, verset 15, qui nous parle, ce proverbe-là, de jugement soudain qui tombe sur les méchants. Ainsi, disons-nous, aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Ça, chers amis, c'est encore une autre mise en garde. Une autre mise en garde contre le danger de verser dans la présomption quant à la grâce de Dieu. C'est vrai que Dieu est miséricordieux. Il est toute miséricorde. Il est plein de grâce. Cependant, ne pas se détourner du péché à la lumière de cette grâce-là, c'est littéralement placer sa tête sur le billot d'un juste jugement. Et c'est là, effectivement, l'expérience de Belshazzar. Alors, allons maintenant au texte. Le philosophe allemand du 19e siècle, George Wilhelm Friedrich Hegel, a dit un jour que la seule chose que nous apprenons de l'histoire, c'est que nous n'apprenons rien de l'histoire. Bon, c'est certainement un peu cynique, mais c'est aussi très vrai. L'humanité répète encore et encore les mêmes erreurs, tombe dans les mêmes patrons, dans les mêmes moules, Et ça l'est également dans le récit de ce chapitre 5 du livre de Daniel, alors que nous voyons Belshazzar faire montre de péché au superlatif et faire montre d'un esprit inculte littéralement. Nous voyons dans ce récit les dernières heures de Belshazzar. Nous voyons que la ville était assiégée par l'armée des Mèdes lorsqu'il décide, passez-moi l'expression, de faire un party. De faire une fête. Le fait est que la ville était magnifiquement protégée et était assurée de provisions de nourriture pouvant supporter un siège de plusieurs années. En tout cas, c'est ce que nous rapporte l'auteur ancien Xénophon. Ce n'est pas sans nous rappeler le Titanic. On fait un peu montre d'arrogance aussi avec le Titanic, ni Dieu ni diable. Il était construit solidement et on ne craignait rien. Et pourtant, il a coulé à pic. Ainsi, Belshazzar et toute sa cour ne craignaient rien parce que Babylone était super bien protégée, le château de même. Ils avaient de la nourriture en abondance pour tenir un siège pendant longtemps. Alors, ils n'ont aucune crainte. Et voilà qu'en pleine attaque, il se permet de faire une fête. Il était manifestement dans l'ignorance des paroles du prophète Ésaïe, paroles prononcées environ 2 siècles auparavant, concernant l'humiliation ultime de Babylone. En effet, lisons-nous, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 47, les versets 10 et 11, « Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite, et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi. » Sans que tu en voies l'aurore, la calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Ben, c'est ce qui va se produire pour Belshazzar. Voyez-vous, la posture de Belshazzar n'est pas sans nous rappeler celle de la parabole du riche insensé qui se confie dans ses richesses accumulées. À l'évangile de Luc, là, au chapitre 12, dans les versets 19 et 20. « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce, hein? Le bonhomme de la parabole, hey, j'ai plein de REER, j'ai une retraite blindée, un bon fonds de pension, mon âme, repose-toi, jouis de la vie. C'est pas tout à fait comme cela que ça se passe, il y a des richesses qui sont infiniment plus importantes que celles-là. Voyons donc brièvement, à travers l'événement du récit de ce matin, l'état spirituel de Belshazzar. Mais premièrement, son comportement était certainement indigne de sa responsabilité de monarque, hein? Son égo, l'amour qu'il avait pour sa petite personne, son narcissisme, transcende alors que les yeux de 1000 invités se portent sur lui en train de goûter le vin. Au verset 1, le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. On voit ici un personnage théâtral qui veut en mettre plein les yeux de ceux qui l'observent. Et nous voyons dans ce qui suit son péché s'exacerber, l'abus d'alcool aidant, bien sûr. C'est ainsi qu'il verse dans le blasphème. Le vin, ayant balayé les dernières traces d'inhibition, son cœur pervers a libre cours. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va défier le Dieu des cieux, le Dieu Tout-Puissant. Verset 2. Belshazzar, quand tu l'eus goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Mais quelle profanation! Il savait exactement ce qu'étaient ces vases, d'où ils venaient et à quelle fin ils devaient servir. Ce n'est rien de moins de la part de Belshazzar qu'une moquerie de Dieu. Il lève son poing, n'est-ce pas, vers Dieu. Et la débandade se poursuit alors qu'avec ses invités, il continue de boire, n'est-ce pas, comme une éponge dans les vases emportés du temple. Et ils vont même, ces grands-là, à l'instigation de Belshazzar, offrir leur adoration idolâtre alors à l'argent, au bois et à la pierre, comme on le lit au verset 3 et 4. Alors, en apportant les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire, ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Trop, c'en était trop. Sa fête sacrilège allait prendre un tournant sans revenir-y. Son aveuglement allait faire place à l'apparition d'un message, pour le moins inattendu, un message de jugement de la part de Dieu. Voilà que, sur la chaux de la muraille, en face du fauteuil où Belshazzar prenait place, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit soudain des doigts de main d'homme écrire une série de mots. Et ça l'a rempli d'effroi à un point tel que la description qu'on en fait, hein, il s'est pratiquement décomposé, voyez. On retrouve souvent d'ailleurs, soit dit en passant, sur les murs des palais royaux, des peintures ou des artefacts d'une lignée de dirigeants et de leur accomplissement, hein, et c'est là ce qui fait la fierté d'une dynastie. Ici cependant, ces doigts artistiques qui s'agite dans la rédaction des paroles sur ce mur, ne dépeignent aucunement une estimation positive du règne du roi, bien au contraire. Nous lisons versets 5 et 6. « En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Selon toute évidence, mon cher Belshazzar, la récréation était finie. » Qu'est-ce qui vient de se passer? Belshazzar est devenu conscient de la réalité du jugement de Dieu. Bon, il n'a peut-être pas compris, là, la signification des mots écrit sur le mur, mais n'importe qui en aurait aussitôt reconnu le caractère menaçant, n'est-ce pas? Belshazzar est pratiquement en état d'apoplexie, et il est facile de s'imaginer que le visage des 1000 invités qui l'entouraient devait être d'un beau vert tendre ou encore d'une blancheur quasi transparente. Imaginez un peu la scène, vous êtes en pleine fête, tout va bien, on rit, on s'amuse, on rit à gorge déployée, n'est-ce pas, on se tape dans le dos, on se congratule, et voilà que subitement apparaît seulement qu'une main avec quelque chose pour écrire, n'est-ce pas, et voilà qu'on nous écrit une brève épître sur le mur. Ça change un peu l'atmosphère. On en convient tous, n'est-ce pas? Et nous voyons donc cette situation se produire, et si nous ne connaissions pas le reste du récit, à la lumière de la manière dont Dieu a agi avec Nebuchadnezzar, on serait porté à croire que Belshazzar est sur le point d'être converti. Mais ce serait une mauvaise compréhension de la réalité. En effet, c'est une erreur, vous savez, que de s'imaginer qu'une expérience de grande anxiété, là, quelqu'un qui a vu une très très grande épreuve, un choc comme celui-là, accompagné de manifestations physiques, il est en décomposition, c'est une marque de conversion, pas du tout. La dépravation intérieure de l'homme est telle, chers amis, qu'il faut une nouvelle naissance. Il faut naître de l'esprit pour se tourner vers Dieu. Même les expériences les plus difficiles, les plus incroyables, les plus surnaturelles ne nous convertiront pas si nous ne sommes pas en mesure de les interpréter avec l'esprit de Dieu. Et comme le pécheur naturel depuis Adam est mort spirituellement, il est incapable de le faire. L'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Et nous voyons que ça n'a pas été le cas pour Belshazzar. Il n'avait pas l'esprit de Dieu. Sa réaction aux circonstances est on ne peut plus naturelle, pour ne pas dire charnelle, comme on le voit au verset 7. Le roi cria avec force « Qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. » Et le roi prit la parole et dit aux gens de Babylone « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Pauvre Belshazzar, il croit trouver une réponse à sa situation désespérée dans le discours vide de ses conseillers idolâtres et corrompus. Et par surcroît, ce cher Belshazzar, il pense encore que son argent ou ses cadeaux peuvent lui procurer la sécurité, alors qu'il offre une place de choix dans le royaume à qui lui donnera l'interprétation, n'est-ce pas, des paroles qui ont été rédigées sur le mur de son royaume. Verset 8, comme dirait Charlebois dans sa chanson Conception, déceptionne au verset 8. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. On ne voit pas vraiment de raison pour laquelle tout ce monde-là ne pouvait pas lire les mots sur le mur. Vraisemblablement, ce que le texte veut dire, c'est oui, ils pouvaient lire les mots, mais ils étaient dans l'incapacité d'en comprendre le sens, d'autant plus que dans la langue dans laquelle ces mots étaient écrits, n'est-ce pas, hein, l'araméen, on n'avait que les consonnes, il n'y avait pas de voyelles. Quoi qu'il en soit, quelles qu'aient pu être les raisons, les sages demeurent bouche bée au grand désespoir du roi. Sur quoi le roi Nebuchadnezzar, nous dit le verset 9, sur quoi le roi Nebuchadnezzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. Belshazzar, voyez-vous, en utilisant les vases et les couples, je dis bien les vases et les coupes du temple de l'Éternel pour sa beuverie, pour son orgie gastronomique, s'est trouvé rien de moins qu'à manger et à boire, un jugement contre lui-même. Il était à l'écoute des premiers balbutiements de la marche de Babylone vers la mort. Un jugement qui préfigure d'ailleurs ce que nous en disent les derniers chapitres de la Bible, alors que nous lisons au livre de l'Apocalypse, chapitre 18, versets 5 à 7, versets 8 et verset 14, nous lisons donc ce qui suit. « Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugée. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Tu ne les trouveras plus. » Voilà. C'est bien là le jugement dernier qui va atteindre un monde rebelle à Dieu. On peut toujours se réfugier dans le déni, comme faisait Belshazzar. Croyant en la science, croyant en notre propre sécurité, on peut se réfugier dans le déni en disant non, ça n'arrivera pas. Cependant que ça ne changera rien à la réalité. Et qu'est-ce que la réalité? C'est le jugement de Dieu qui pèse sur sa création parce qu'elle s'est détournée de lui. C'est la grande thèse de Romains 1. L'homme sait que Dieu existe. L'homme connaît Dieu. Mais il refuse, il garde cette vérité captive et il refuse de louer Dieu et de vivre pour lui selon ce qu'il devrait faire en tant qu'image du Créateur. Par contre, dans ce même chapitre 18 du livre de l'Apocalypse, nous avons ce commandement du Seigneur au verset 4. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Voilà une invitation pleine de grâce. Voilà une invitation à laquelle on fait bien de prêter oreille, chers amis. Parce que d'abord, c'est une voix qui vient du ciel, hein, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, c'est la révélation du Seigneur. L'apôtre Jean de dire, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Il s'agit donc d'une invitation toute en grâce, une invitation à fuir la colère à venir. Maintenant, l'invitation elle est passionnante. Oui, l'invitation elle est très interpellante, mais comment peut-on fuir la colère de Dieu sur les pécheurs que nous sommes? Parce que nous aussi, nous faisons partie d'une race pécheresse. Comment sortir du milieu d'eux? Comment fuir la colère à venir? Ben, c'est bien là l'Évangile. C'est bien là la bonne nouvelle. On sort du milieu de ce peuple-là, on fuit la colère à venir en venant nous réfugier dans le seul abri qui puisse être, à savoir la personne glorieuse et majestueuse de Christ Jésus. Comment Noé et les quelques membres de sa famille ont-ils fui la colère à l'époque, dans le livre de la Genèse, à l'époque du jugement qui est venu s'abattre sur toute la terre, à l'époque du déluge, en entrant dans l'arche? Il n'y avait pas d'autre abri, il n'y avait pas d'autre refuge. Il n'était pas question qu'ils se bâtissent, n'est-ce pas, une tour ou une échelle qui monte dans les arbres, parce que même ces derniers ont été immergés. Seule l'arche les assurait de la sécurité. C'était une espèce de symbole, n'est-ce pas? C'était une préfiguration de la sécurité qu'on trouve en Christ Jésus, en vue du jugement dernier qui va s'abattre également sur toute la terre. On peut venir se réfugier en Christ Jésus et avoir la sécurité pour une raison très très simple. C'est que le Christ Jésus, ce n'est rien de moins que Dieu. C'est Dieu fait homme, pleinement Dieu et pleinement homme. Et quelle a été son œuvre? Pourquoi est-ce qu'il s'est fait homme? Il s'est fait homme exclusivement pour venir s'identifier à nous. Il s'est fait homme pour venir faire ce qu'on n'a pas fait nous. Il a parfaitement, lui, obéit au commandement de Dieu. Hein? On l'entend souvent dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il a parfaitement mérité le ciel, mérité le salut. Et pourtant, c'est lui qui va aller subir la colère sur la croix à notre place, enfin, pas à la place de tout le monde, mais à la place de tous ceux qui viennent se réfugier en lui par la foi. Comment est-ce qu'on se réfugie en Christ? Ben, c'est par la foi, en recevant par la foi le sacrifice parfait qu'il a opéré pour nous, et en se consacrant à lui et en désirant vivre selon sa parole. Les paroles qui nous convient à la repentance, à nous là, ne sont pas écrites sur un mur de chaux, mais elles nous viennent du même auteur, cependant. Elles n'ont pas été écrites non plus par des doigts de mains humaines. C'est-à-dire qu'elles ont été écrites, oui, par des doigts de mains humaines, mais au même titre que ces paroles-là qui ont figuré sur le mur du château de Belshazzar, elles ont été rédigées, elles ont été mises sur un support écrit dans un livre qu'on appelle la Bible. La Bible, le livre, la révélation de Dieu. Elles viennent du même auteur. C'est Dieu lui-même qui en est l'auteur, et ces paroles-là sont compilées dans ce recueil qu'on appelle la Bible. Et vous savez ce qu'on retrouve dans ce recueil-là, entre autres paroles? Sous la plume du prophète Amos, chapitre 4, verset 12, il nous est dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On se prépare pour aller au travail, hein? On se prépare pour aller à une fête, on se prépare pour aller à un souper mondain, on se prépare pour bien des choses. Mais la plus grande préparation, celle qui est vraiment primordiale, prioritaire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et comment est-ce qu'on se prépare à la rencontre de notre Dieu? En sortant du milieu d'un monde pécheur et en allant se réfugier dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. L'émission se termine sur cette invitation ce matin. Puissions-nous, si ce n'est déjà fait, y répondre avec enthousiasme, avec joie et avec reconnaissance à Dieu pour sa grande miséricorde. Et elle vous revient, cette émission-là, en rediffusion à 14h cet après-midi. Maintenant, si vous désirez nous contacter, ben, vous savez que vous pouvez nous écrire, hein? Vous pouvez nous écrire à AERBQ, casier postal 40088 Québec QC G1H2S5. Vous pouvez également nous envoyer un courriel. Vous trouverez notre adresse courriel sur notre site internet, le site internet de la station radio, foifm.com. Et également, nous avons numéro de téléphone pour les gens dans la région 88, là, 88-688-0506 et ailleurs en province, le 1-877-659-0251, numéro sans frais. Merci d'avoir été là et merci au Seigneur pour sa parole, hein, à son Esprit Saint également qu'il l'éclaire pour nos cœurs afin que nous puissions la recevoir. Et bien sûr, la Bible nous dit que nous sommes heureux si nous entendons ces choses pourvu que nous les mettions en pratique. Que cela soit, bonne journée et à la prochaine.